Nous sommes le 11 février 2013 et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux, un dossier enregistré il y a fort longtemps. Nous avons extrait.
Il y a trois semaines.
Fort longtemps.
Fort longtemps.
Parce que
il y a très très longtemps,
dans
une vieille très très lointaine.
Dans une semaine, ça fera presque un mois. Donc.
Et dans un an, ça fera un an. C'est magique.
C'est mathématique. On a extrait ce morceau du numéro 39. On va vous le proposer en tant que dossier, un dossier sur le crowdfunding. Bonne écoute! Ce soir, on voulait vous parler de crowdfunding. Alors, on vous en parle un petit peu tout le temps, parce que c'est quand même devenu incontournable dans l'industrie du jeu de société. Mais là, l'actualité est assez chargée, assez dense, pour qu'on y passe quelques minutes, qu'on fasse un petit peu le tour des pratiques du crowdfunding. Tu voulais commencer, Jérémy, tu m'as parlé de 1775.
Oui, en fait, un qu'on a raté parce qu'il a eu lieu...
On l'a raté ?
C'est pas qu'on l'a raté, c'est qu'en fait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait enregistrer d'épisode d'actu et que ça s'est produit entre le précédent épisode et celui-là, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu en parler. En fait, à l'heure où je vous parle, il reste 2 heures restantes, donc c'est pour ça que c'est pas la peine.
Donc c'est juste 21 janvier à minuit ou 22 janvier au matin.
Voilà. Oui, ça va être ça.
Et c'est intéressant pour baquer ? On peut y aller, nous, ou...
C'est
Non, vas-y. Non, donc 1775.
Donc c'est 1775
chez Kickstarter.
Non, c'est Ulule.
Ulule.
Non, c'est
Ulule. Ulule.
J'en sais rien comme on dit moi.
Moi je dis Ulule.
Voilà. Ouais, parce que moi c'est qu'il y a un E à la fin. Donc c'est Asynchron, l'éditeur Asynchron qui a fait un appel donc pour éditer 1775 Rébellion et en profiter pour du coup s'il levait suffisamment de fonds refaire une réédition de 1812 l'invasion du Canada. Ils ont fait un tir un peu groupé et j'étais pas sûr que ça marcherait parce que alors c'est des jeux on va dire déjà pour situer un petit peu les jeux c'est déjà du jeu pour joueurs un peu avertis hein. On n'est pas dans le wargame mais on n'est pas non plus dans le jeu avec Mémé
sauf là je te prie d'avoir un petit peu plus de respect pour la grand-mère de Jocelyn s'il te plaît.
Oui, tout à fait. Elle se cultive et elle en apprend régulièrement. 1775, c'est peut-être un jeu plus accessible que 1812 tout de même. Il est puisqu'il est noté à partir de 10 ans. C'est quand même, donc c'est des jeux, en fait, il fallait lever 8000 euros et les paliers, ça commençait à 45 euros. Il y avait 5 euros où tu faisais juste un soutien, voilà, c'était tout.
Merci.
Et après, sinon, le palier suivant, c'était déjà 45 euros, et après, c'était 50 euros, 85 euros, et puis tu pouvais monter un petit peu plus. À la fin, le dernier palier, moi, j'aimais bien, c'était celui à 395 euros. Il venait te remettre en main propre les jeux. Il t'expliquait la règle, etc. L'équipe Asynchron vient chez toi t'expliquer.
C'est la classe.
Ça, c'est pas mal.
Voilà. C'est un soutien qui... ouais, c'est la classe.
C'était pas mal, hein, ça pète, ça, voilà.
T'as vu des...
C'était les seulement 5 disponibles.
T'as vu des niveaux qui te plaisaient, toi ?
Personne l'a pris, hein. Bon moi le en gros je prends un niveau avec les jeux ça me va très bien c'était le niveau à 95 euros pour avoir les deux et en plus il y avait des décalcomanies signées par les auteurs du jeu.
Ouhou.
Voilà il y en a eu 6 sur 50 l'avantage c'est qu'ils demandaient 8000 euros entre guillemets c'est à dire que c'est assez modeste malgré tout je pense qu'ils considéraient qu'il y a une partie de l'effort qui était fait avant faut dire 1812 a déjà été fait. Et tous les graphismes de 1775 sont déjà prêts. Hein. C'est pas...
Ils ont été faits par des enfants, c'est pour ça.
Ah ouais.
Non, j'exagère. Je suis vachement dur là, parce que c'est ouais. Vrai que c'est pas... Bon, c'est assez simple. On dirait une carte à la Wallace, en fait.
Le plateau ? Ouais, mais il y a une illustration sur la boîte de base. Enfin bref, non, on est négatif. Toujours est-il qu'il est financé à 166%. Je suis très content, parce que oui, c'était... je me disais...
Mais t'as backé ou pas ?
Non, j'ai pas backé, moi.
D'accord.
Non, je vais pas baquer parce qu'en fait j'avais oublié, tu vois, c'est juste que ce soir que ça me revient.
Ben, tu pourras si on finit avant minuit.
Et...
Ou si je parle beaucoup. Je suis très verbeux ce soir.
T'es très verbeux.
Et donc j'en profite puisque bah, je vais te permettre de baquer. Je vais te permettre de baquer chez Ulule. Mais je t'invite aussi à aller voir chez Kickstarter. Et Kickstarter, ils avaient demandé 10 000 dollars pour sortir 1775. Et là, c'est un autre éditeur, c'est l'éditeur qui s'appelle Je vais le retrouver.
Oui, parce qu'en fait, oui. Alors, si on va jusque sur ce terrain-là, en fait, c'est parce qu'ils vont.
C'est Academy Games.
C'est Academy Games, voilà.
Aux États-Unis.
Parce qu'en fait, c'est Academy Games à la base qui produit le jeu et Asynchron fait la partie française, la traduction française.
Et eux, ils ont eu près de 50 000 dollars par rapport aux 10 000 dollars qu'ils attendaient.
Ouais, c'est le côté américain. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont tous mis. Enfin, je veux dire, moi, à partir du moment où le jeu, il a eu les fonds, il est backé. À moins de voir les bonus, mais sinon globalement, je vais retrouver quand le jeu va sortir en réalité dans une boutique, je pourrais l'acheter au même prix quasiment que le prix que je pouvais le payer sur le Kickstarter. Pareil, et j'ai pas un an à attendre. Enfin, j'attends aussi un an, mais j'ai pas mes ronds qui sont partis pendant un an.
D'accord. Donc ça c'est ton premier point. Ce que tu reproches au crowdfunding et à Kickstarter ou Lulé, c'est que on achète une idée et après entre le financement du projet et le développement et la production du produit fini, on attend peut-être parfois, c'est comme D-Day Dice, ou alors la Black Box de la Gloire de Rome, les gens ont entendu vraiment beaucoup.
Voilà, tout dépend où on est le projet. Un projet comme 1775, il est déjà très avancé. Il y a déjà les graphismes, il y a déjà tout le matériel, enfin tout est finalisé. Il n'y a plus qu'après à avoir les fonds pour lancer la production. Donc il y a 2 mois, 3 mois de délai, quoi. Un peu comme ils avaient fait pour Zombicide. C'est juste un moyen surtout de faire de la pub pour eux. Alors qu'il y a des jeux, comme dit Dedai, il y avait surtout un concept, mais il n'y avait encore rien après de fait. Et ils ont fait, ils ont brodé après, donc il a fallu presque un an pour que ça sorte.
Ouais, sauf que c'était déjà un print and play. Enfin, le jeu existait déjà, maintenant après, il a fallu payer un illustrateur.
Voilà, ils attendent de voir si le projet marche pour décider s'ils payent même ne serait-ce que l'illustrateur. Alors que les éditeurs font déjà le pari, misent déjà ses illustrations. D'un autre côté, je trouve ça plus de gueule prendre un projet quand il a déjà ses illustrations finales, etc.
C'est indispensable. Alors ça c'est la première version. On a déjà, c'est pour une réédition pour aider à sortir un nouveau jeu. On a Formula E qui lui a été mis, qui a été proposé sur Kickstarter et qui n'est autre qu'un jeu de Bruno Feduti. Alors Formula E, moi ça m'a tout de suite fait penser à Formule D ou Formula D.
Formula D, ouais.
Formula D, mais là ils ont mis des éléphants.
Ah, c'est l'évolution, c'est un E, c'est plus un D.
C'est ça, c'est des E, tout à fait. Et là ça se plante, c'est-à-dire que t'as beau t'appeler Feduti, ça marche pas. Il reste 7 jours, il y a 200 personnes qui ont backé et ils ont collecté 10 000 dollars.
C'est pas mal quand même de collecte.
Surtout que en fait le problème c'est que donc 1775, ils demandaient 10 000 dollars. Et ils en ont eu beaucoup plus. Et là, ils demandent 25 000 dollars et ils n'ont que 10 000 dollars.
Alors, pour 1775, ça se comprend parce que c'est un public, on va dire, de gamers. Enfin, c'est un public qui est déjà connu, qui est identifié et qui n'a pas beaucoup de jeux qui sortent, etc. Alors que Formula E, je pense, malheureusement, c'est un jeu, on va dire, comme il en existe plein d'autres. Ouais. Mais c'est beaucoup de demander 25 000 dollars.
Puis qui n'est peut-être pas forcément adapté au public américain. Pour rappel, peuvent proposer un projet chez Kickstarter uniquement les gens qui sont américains, qui se posent un compte bancaire en Amérique. Donc c'est quand même ciblé américain, même si ça s'attend à se mondialiser. Il y a quand même des plateformes qui sont propres aux États-Unis. Donc voilà, bon, ça c'est ils partent sur un nouveau jeu, ils le proposent avec une figure de proue et peut-être que sur Ulule ça aurait mieux marché. Et puis on vous parle de Kickstarter parce qu'il y a quand même une news importante qui est sortie très récemment, c'est que Small World de Deathwonder, il y a une campagne Kickstarter qui est lancée pour pouvoir vous permettre beaucoup de choses en fait. Enfin, c'est plutôt que vous permettre, c'est leur permettre donc à Deathwonder.
C'est un coup d'essai. Hein,
de faire plein de choses. Alors, Deathwonder, c'est un éditeur qui est à pignon sur rue, qui existe depuis très longtemps, 10 ou 15 ans, qui a toujours privilégié une série. Il y a eu une série de Mémoire 44, il y a eu les Aventuriers du Rail, il y a eu
un peu collection,
et qui a toujours misé sur une édition de qualité, des boîtes qui étaient très chères même à l'époque.
Un côté un peu immersif dans le design, enfin.
Oui, ouais. Ils ont mis le paquet justement sur les illustrations et tout ça. Et là, il se lance dans Kickstarter et là, on se demande,
En fait, juste pour finir, oui. Parce que pour une petite note de petite réserve, moi, que j'ai par rapport à des Avengers, je dirais un éditeur qui a du mal à se renouveler. Qui a pas sorti de vraies nouveautés, là, récemment. Et le Small World 2 qui arrive, ça a fait que, pour moi, ça ne fait que renforcer cette impression que,
Ils ont sorti la campagne pack de Mémoire 44.
Ouais, non, ils ont sorti l'équipement pack, voilà.
L'équipement pack.
Ils ont sorti Small World Underground, puis Small World.
Rims.
Ouais, Small. Voilà. Mais voilà.
Ils trouvent un filon, puis ils grattent. Alors, combien ils demandent eux?
190 000 $.
Ouais. C'est... 190 000 $. Donc là, on a.
Ah, c'est-à-dire qu'ils ont plus tout? Parce que quand tu demandes 190 000 $, c'est énorme, quoi, la somme.
Alors. Ouais. Ouais. Bon, alors, donc de toute façon, ce qu'ils disent eux, c'est que Small World 2 va sortir, quoi qu'il en soit. Et là, déjà, t'es plus dans la même optique que aidez-nous à faire Formula E parce que on a besoin de sous et on a pas de sous. Donc, ça sera une version 3 à 5 joueurs. Et si le projet aboutit, l'upgrade sur la plateforme iOS, puisque Small World est quand même l'un des plus jolis jeux et des mieux réussis, enfin avec les Aventures du Rail bien sûr, de la plateforme
en sachant que c'est iPad, les premiers jeux qui soient sortis sur iPad, c'était déjà la barre était très haute dès le début.
Et bien on va se retrouver avec une version 3 à 5 joueurs. Mais gratuite, c'est-à-dire que ce qu'ils disent c'est si on attend les 190 000 $, et bien tout sera gratuit. Et ce sera multiplateforme.
Ouais.
Ce sera développé.
Ce sera gratuit, à mon avis, à la mémoire 44 online, c'est-à-dire avec un système de lingots que tu pour jouer des parties.
Et donc là, ils ont récupéré déjà il y a 25 jours encore. Donc vous pouvez aller backer, il n'y a aucun problème. On va regarder les paliers parce que moi, ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. Ça m'a intéressé de passer en revue tous les paliers qu'il pouvait y avoir et qu'est-ce qu'on pouvait avoir avec Small World. 80 000 $, ça me paraît déjà énorme, même pour développer une application iOS qu'ils ont déjà, parce qu'en fait, le moteur du jeu est long. C'est juste une application graphique et puis ils vont le décliner pour le PC et pour
est-ce que Android. L'iPad sera livré aussi avec
à ce prix là j'espère, mais bref, je suis pas sûr qu'ils atteignent les 190 000. Ils se sont dit bon allez, si vraiment on a beaucoup d'argent, alors ce sera gratuit.
Ouais, en plus ils proposent plein d'autres bonus.
Ils ont beaucoup d'argent mais pas beaucoup en fait. Bon alors qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 3 $? Vous avez un merci. Et surtout, ce qu'ils vous proposent, c'est l'ouverture du forum lors du développement du jeu. Donc, vous pourrez donner votre avis, puis faire des commentaires. Pour 15 €, vous pourrez upgrader votre application en V2. Et en plus, vous avez 3 pouvoirs spéciaux. C'est-à-dire, c'est pas des races, c'est les pouvoirs. T'as pas de race, hein, c'est juste 3 pouvoirs spéciaux.
Ouais, en gros, ton application, tu l'as payé 5 €, tu l'as payé 3 fois le prix, quoi.
Ouais, après, c'est toujours pareil. C'est... Bon, voilà. Pour 30 €. Donc tu as un merci plus l'upgrade en V2 plus les 3 pouvoirs et en plus t'as les 3 extensions maudit au bonheur des dames et puis la troisième dont j'ai oublié le nom et 3 races exclusives. Donc là c'est mais là tu aides carrément, enfin, c'est énorme pour ce que c'est, mais tu prends ton parti d'aider et puis tu voilà et là tu dis ok bon pour une petite boîte je veux bien aider, pour Days of Wonder j'aime beaucoup ce qu'ils font et je trouve que j'apprécie énormément Small World, j'apprécie énormément les Aventures du Rail, j'apprécie énormément Battle Lore, Mémoire 44. Mais attends, c'est une vraie boîte quoi, c'est pas des philanthropes, donc ça me gêne un petit peu. 65 $, donc on a tout ce qu'il y a avant, donc le merci, l'upgrade, tout ça, les extensions, les pouvoirs. Et en plus, on a un album, donc on a un album illustré, les races et les pouvoirs spéciaux, donc ça c'est pas mal. Là déjà, tu as du goodies qui est de qualité. Alors, bon, c'est un petit album, il fait 85 pages, mais c'est sympa. Pour 100 $, le jeu et toutes ses extensions sur toutes les plateformes développées, un t-shirt, 3 badges et ton nom au générique de fin. Et alors ça, le nom au générique de fin, ça m'a tué.
Ouais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo.
Parce que le nom sur la boîte, c'est rigolo, mais le jeu sur le générique, tu ne le vois jamais. Bon. Et après, il faut aller vraiment...
C'est la fin du générique de fin. Ouais, c'est vraiment la fin.
Et après, il faut déjà débourser quand même un bon paquet de pognon pour avoir quelque chose de très intéressant. C'est le jeu de société. Donc, tout ce qu'il y a avant, l'album, la version iPad en V2, plus les extensions, plus les pouvoirs, etc. Il y a toujours les paliers d'avant. Et en plus, on a le jeu de société et 160 jetons deluxe.
Super.
Super. Et tu iras voir, on vous mettra les visuels sur, on vous renverra sur les visuels de Kickstarter. C'est superbe, quoi. Vous aurez une édition au collector, il sera génial. $240, 12 jetons de luxe supplémentaires, deluxe supplémentaire. Après, donc, on passe de $240 à $400, et c'est une édition designer, une carte géante où on peut jouer à 6. 307 jetons deluxe, des pièces métal, un dragon en résine. Pour $400, t'as. Enfin, si vous êtes fan de ce jeu, ben c'est l'occasion de faire péter le truc et d'avoir une version incroyable de Small World.
À ce prix-là.
Et par contre, si tu veux mettre que $321, tu peux. T'auras que la version deluxe. C'est-à-dire que t'auras pas, t'auras pas tout ce qui est.
C'est limité à 3000 personnes, mais ça n'a pas encore fait l'unanimité.
Si t'as pas d'iPad, si tu veux pas d'album, qui comme moi, t'aimes pas le style BD.
Ah, je te parlais du fait que j'aime pas attendre un an ? C'est prévu pour mars 2014.
Bah oui, bah attends. Et puis, $400 une édition designer, $650 une figurine en 3D, l'Amazon. J'adore, t'en auras qu'une seule et elle sera dédicacée. $999, inventer la race, le pouvoir de votre choix.
Il y a eu des concours, il y a déjà eu
ce qu'il fallait, mais ce qui fait un peu mal au cul, c'est qu'il sera imprimé, mais il sera pas forcément publié.
Et tu sais quoi ? T'es déjà sold out quand même, hein. Il y en avait que 5, ils sont déjà pourvus.
Ouais, et puis après, une illustration de Miguel
Colombo. En juin 2014.
Oh, bon, après, il y a tout le reste. Il y a la figurine, il y a. Après, 1000 euros, quoi.
Et après, il y a des paliers à 3200.
Ouais, alors tu disais tout à l'heure, faites-vous livrer le jeu par la team de l'éditeur. Là, c'est un déjeuner ou une partie. Enfin, jouer et venez déjeuner avec Philippe Erhardt.
Septembre 2014.
Soit, si vous êtes en Europe, vous pouvez aller chez Days of Wonder à Paris pour aller voir un petit peu les dessous de cette boîte et puis jouer et rencontrer l'auteur. Soit, vous allez voir Eric et Marc aux États-Unis. Bon, ils payent la nourriture, le logement pour deux nuits. Après, il faut payer son voyage. Et puis, la figurine 3D. Bon,
quand t'as lâché $3200, tu peux bien payer ton voyage.
Ouais, c'est ça. Et la figurine 3D, tu l'as choisie. Ah. Tu vois, c'est plus l'Amazon. Si tu préfères les zombies, je sais pas quoi, tu peux y aller.
Ah, par contre, cher auditeur, dépêche-toi, il n'y a que 3.
Ouais, c'est ça. Et puis pour $8500, tout le reste, plus.
T'as une carte 3D peinte à la main. Rien que ça, quoi.
Donc là, on est quand même dans une. C'est bizarre, quoi.
C'est très bien parce que je trouve ils ont poussé à l'extrême la philosophie du Kickstarter. On verra où ça va. C'est intéressant à suivre. Moi, je trouve que j'ai failli verser ma petite larme quand même. Parce qu'à la fin, il y a risque et challenge. Et ils disent, il y a un risque sur le logiciel parce qu'ils sont au taquet. L'équipe, elle est entraînée, elle est parfaite. On sait jamais. S'il y en a un qui tombe malade ou qui se barre, ils disent become unavailable. Donc, qui se barrerait de la boîte, par exemple. du coup, ça retarderait.
Ça s'appelle
la gestion des ressources humaines une boîte. Mais...
Ouais, c'est la gestion de projet.
Ça s'appelle pas une gestion de Kickstarter pour gérer le retard. Ouais. Bon, bref, c'est pour rire. Hein, voilà. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la version Small World 2 sur iPad, on l'aura.
C'est ça, mais il faudra payer.
Ça me gêne pas de payer 5 euros pour être sûr que.
Et d'un autre côté, les vendeurs auront engrangé au moins 80 000, peut-être un petit million de francs.
Ils ont
150 000 euros.
$1000 en 6 jours. Il reste 25 jours.
Donc ils vont faire les.
Ils sont capables de faire les 190 000.
Ouais.
Alors, bon, le public américain n'est peut-être pas le public français.
Ils aiment les figurines 3D des Amazon.
Ouais, c'est ça. Ils aiment le truc peut-être super custom où ils ont vraiment du pognon.
Les Américains ?
Je sais pas.
Ouais, certains, ouais.
Je sais pas, je suis.
C'est l'argent de la drogue, ça.
Ça doit être ça, en fait. Non, je suis étonné, vraiment, qu'il y ait autant de succès pour ça, parce que moi, je trouve que c'est un. C'est un peu poussé à l'extrême, là, le truc. En plus, c'est même pas pour un nouveau jeu, c'est un truc déjà connu. Si vous êtes français, que vous avez envie ça vous tente quand même d'avoir tout ça, on vous a pas précisé, mais c'est quand même Days of Wonder US qui gère forcément, puisque c'est un projet Kickstarter, il faut être aux États-Unis. Et ça veut dire que votre jeu, non seulement, par exemple, si vous payez $100 pour avoir votre version, vous devrez en plus rajouter les frais de port, donc qui s'élèvent à $25. Et ça peut même monter jusqu'à plus de $50. D'ailleurs, les versions ultimes qu'on vous a parlé.
Oui, la carte.
Il y en a qui sont.
La carte en 3D, la map en 3D.
Ça vous d'aller chercher. Il faut aller la chercher aux US directement, puis vous débrouillez pour la ramener en avion. Ouais. Ça mène pas. Donc voilà, mais bon. Si vous misez, enfin c'est pas une mise, mais si vous soutenez le projet, donnez-nous vos raisons dans les commentaires. Je suis curieux de savoir.
Et alors c'est intéressant parce que en parallèle, j'ai lu un article sur Board Game Geek à propos d'un petit éditeur qui s'appelle Small Box Games et qui lui dit en 2012 on a utilisé Kickstarter, on en est très content et voilà pourquoi. Alors eux c'est l'antithèse de
Days of Wonder.
C'est l'antithèse de Days of Wonder. C'est une toute petite structure qui fait des petits jeux, donc c'est
tout voilà. Leur nom.
Oui, Small Box. Et puis alors ils disent clairement, nous on est petits et on veut rester petits. C'est-à-dire que on a un public qui est assez restreint et on veut s'adresser à ce public et donc on passe par Kickstarter. Déjà, on en a parlé tout à l'heure. La première chose qu'ils disent c'est Kickstarter, ça permet de sortir des jeux qui ne sortiraient pas autrement. Ils restent dans l'essence de Kickstarter en disant Days of Wonder, ils ont quand même du pognon. Ils pourraient se dire, on va lancer un nouveau jeu, on va miser. Là, en l'occurrence, c'est la précommande et puis ils prennent aucun risque. Et ce qu'ils disent, c'est nous, on vend des jeux qui sont finis déjà. Donc, on a une idée, on l'a concrétisée, on a payé de notre poche les illustrateurs.
En fait, c'est un peu une plateforme de e-market, enfin, une e-boutique.
Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est là où ils en arrivent, en fait.
Ça veut dire qu'ils sont sûrs, en fait, que chaque projet va être soutenu.
Et ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'ils utilisent Kickstarter pour, comme une alternative à la distribution. Alors attends, je vais
pardon,
y dire.
Pardon, pardon. Vas-y.
Parce qu'il y a plein d'idées intéressantes, donc je voudrais pas louper. Donc ils vendent pas juste un proto, ils vendent pas. C'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. C'est pas un proof of concept. Ils ont vraiment le jeu et ils l'ont déjà avancé. Et ce qu'ils demandent, c'est les frais pour l'expédition, la production. La pré-prod est ok, il reste plus qu'à mettre en œuvre tout ça, et ils demandent juste le financement pour ça. Par contre, ils sont dans des volumes qui sont limités, 500 000 jeux, ils font pas 2 ou 3 000 jeux.
Ils ne font pas de deuxième tirage.
Je ne sais pas.
Ça se trouve non.
Je ne crois pas. Et donc, effectivement, ils utilisent Kickstarter de la même façon qu'ils pourraient. Ils ne changent pas leur process de production de jeu, sauf que ce qu'ils disent, c'est intéressant. Ils disent, ça nous permet de vendre des boîtes qui sont petites et on va pas surdimensionner des boîtes dans lesquelles on va mettre de l'air pour qu'il y ait de la présence sur les étagères. C'est-à-dire qu'ils disent, on pourrait faire 2000 boîtes et les envoyer un peu partout. Ça coûterait plus cher parce que notre marge serait rognée. Et en plus, on serait obligé de faire des grosses boîtes pour qu'il y ait de la visibilité et que quand les gens arrivent en magasin, ils disent, et que ça soit pas perdu dans tout ça. Et ils disent aussi, on se plaint parce que on ne sait pas. Enfin, on a beaucoup de reviews de jeux qui sont dans les boutiques, qui sont envoyés pas à nous, mais à des gens comme nous, pour faire la critique. Et là, en l'occurrence, on pourrait se dire, oui, mais bon, il y a moins de retours, donc on peut plus facilement se planter. Et ils disent, ouais, ok, bon, mais il y a quand même des jeux qui ont une bonne presse et que vous achetez et dont vous n'êtes pas satisfait. Donc ça change pas grand-chose. Et voilà, donc globalement, c'est ça. On change pas nos process. On demande l'argent pour mettre en production un produit qu'on va pouvoir faire. On s'adresse à des gens qui sont aux États-Unis, c'est Kickstarter. On n'est pas obligé de délocaliser, de faire un gros volume et puis perdre de l'argent. Kickstarter, ça permet de toucher directement son cœur de cible, de ne pas passer par les boutiques, de ne pas passer par la distribution et de vendre en direct et en précommande. Donc, prendre moins de risques. Et là, c'est vraiment une approche complètement différente et qui ressemble pas à celle de Days of Wonder. En fait, c'est marrant.
C'est pas mal du tout comme système. Sachant que Kickstarter prend 10% de com dessus. Non, mais je veux dire, tu fais le calcul, c'est moins en fait que leur prendrait un distributeur, etc. Ouais, enfin bon, après, il y a les frais de port, etc. Je sais pas comment ils prennent, mais...
Et puis, j'ai lu un autre petit article à quelqu'un qui disait attention, parce que le succès que vous pouvez avoir peut vous plomber votre modèle économique, surtout avec les frais de port. T'en parlais. Bah par exemple, oui. Quand vous êtes obligé d'envoyer de l'autre côté du monde des jeux, ça peut vous coûter $50 et que ça revient pour des raisons inconnues et que vous êtes obligé de le re-envoyer, bah vous, d'abord tu manges ta marge, mais en plus tu manges la marge des autres jeux, donc ça, ça marche pas.
D'où l'intérêt du distributeur.
Voilà.
C'est un, après, c'est un calcul, c'est un choix. Voilà.
Et donc Small Box Game qui plébiscite le système de Kickstarter et qui, bah, qui permet pour les petits éditeurs de toucher directement leur, leur public. Un autre éditeur qui utilise ce système, c'est Indie Board Games. Tu... Facile, Indie Board Games ? Non ?
De quoi ? Si, c'est les jeux qu'ils ont fait ?
Bah oui.
Ah bah plein. Résistance, Flashpoint.
Ouais. Voilà.
Non, mais Agis plus... Je les ai tous. Ils ont fait Agis, ils ont fait Triumvirat, ils ont fait. Je vais les retrouver.
Et eux, alors ils disent que bah, ça a pas mal marché. Ils ont vendu 7500 boîtes en vente directe. Alors comment je le sais ? C'est parce qu'ils reversent $1 pour chaque boîte qu'ils ont vendue en direct, soit sur les conventions, soit sur Kickstarter.
Voilà, c'est ça, une vente directe, c'est, voilà, c'est pas les ventes qu'on vous achète en boutique.
Ouais, certainement. Qui,
bah, que moi je donc, fais.
Donc avec une marge plus importante. Et en fait, ils reversent $1 à la fondation Eifer, qui a lancé des actions, notamment en Haïti, et puis au Sénégal, en faisant... voilà, c'est un fonds qui permet de, d'aider les plus pauvres, et donc Indie Board Games donne un petit peu de ses revenus à cette fondation. Et bah, aider en cela dans le Kickstarter, c'est pour ça que je voulais le signaler. Donc pour conclure, pour toi, Kickstarter, c'est plutôt pas mal ou... Ce qu'on a dit, ça va tuer le commerce.
C'est ce que disait Krog. Non, mais c'est marrant parce que du coup, on voit que bon, Days of Wonder, il tente. Enfin là, on a les deux extrêmes et on voit qu'en fait, ça peut être des petites boîtes comme Smallbox Game. À,
ouais.
Finalement, ça crée un nouveau système. Hein. Il y en a qui arrivent à s'en sortir avec ça, c'est très bien.
Bah c'est ouais, c'est un système alternatif. C'est après, c'est un peu dans leur, on verra, dans l'air enfin, du temps.
Ouais, c'est dans l'air du temps, c'est ça. On verra dans 2 ans, je pense que ce sera calmé. Il y aura un peu... Il y aura eu les grands excès et puis les grands échecs. Et puis, petit à petit, chacun arrivera à trouver sa place. On reverra peut-être plus les éditeurs, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre de supporter des gros zombicides à coût de 1 million et des Days of Wonder. On leur dira, oh, vous avez déjà l'argent, débrouillez-vous. Quoi.
Et puis, c'est comme Queen Games qui sort Escape, ouais. Plus... La première extension d'Escape, plus la deuxième extension d'Escape, alors que c'est quand même un éditeur qui a pignon sur rue. Et... Ce qui est dommage, c'est que...
Mais ils font ça beaucoup maintenant.
Ouais, mais tu vois, on parle de Small World 2 et on parle jamais des autres, quoi. Enfin, c'est rare qu'on parle de projets et qu'on fasse... On fait pas de revue de projet. Et donc, en fait, bah, ça occulte les petits éditeurs et les projets qu'ils pourraient lancer. C'est un petit peu dommage parce que ben voilà, c'est-à-dire que tu te dis ouais super, des vendeurs j'aime beaucoup et en plus je vais pouvoir avoir ma figurine d'Amazon et c'est autant d'argent que tu ne donneras pas forcément à un petit. Mais bon, donc bah écoute, je suis assez d'accord avec toi. Le marché va s'équilibrer de lui-même et on verra ce que ça donne. Et je suis content d'avoir eu cette vision des choses de Small Box Game. Parce que ça m'a redonné un petit peu de foi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Project Game, c'était plus intéressant que le projet de The Founder.
Nous avions enregistré ce petit dossier dans le 39, numéro 39 en fait, 39A je crois. Et puis, entre le moment où on a enregistré et le moment où on met en ligne, puisque là on est le 11 février et puis on enregistre le 40.
Il s'est passé 3 semaines.
Il s'est passé 3 semaines et surtout plein de choses. C'est-à-dire que contrairement à tout ce qu'on vous avait dit, notamment sur le crowdfunding de Formule E de Bruno Feduti, le financement de Days of Wonder, il s'est passé tout ce qu'on n'avait pas dit, c'est-à-dire tout ce qu'on avait dit, ça s'est pas réalisé. On va commencer par Days of Wonder. Ce qui s'est passé, c'est que c'était autour du 25 janvier, je crois. Jérémy m'a envoyé un lien. Le projet est arrêté. C'est-à-dire il récupère $100,000. Il s'arrête. Et alors justement, on se pose la question, on se dit mais pourquoi ? Et en fin de compte, il semblerait que leur stratégie de communication n'ait pas été
performante. Ils se sont rendus compte que c'est ce qu'on avait dit en première émission, on voyait pas bien clairement ce qu'ils voulaient faire de tout ça. Et en fait, je pense qu'ils ont eu pas mal, je pense que c'est sur BoardGameGeek que ça a dû pas mal bouger. Ouais. Et ils se sont rendus compte que ça allait pas bien. Donc a priori, ils ont repris le temps de se pencher sur la question et ils devraient revenir vers nous le 12 mars.
Donc, un
reboot.
C'est dommage, on avait passé en revue l'ensemble de tout ce qu'on pouvait avoir.
Bah, c'est pas grave.
C'était alléchant. Je me demande d'ailleurs ce qu'ils vont faire de tout ça ou si. Est-ce que là, on va en fait avoir un Small World 2 multiplateforme. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'ils avaient. Tout ce à quoi ils avaient pensé, ça tombe à l'eau.
Ah, surtout qu'en fait, ils ont viré plein de trucs dans leur page du coup.
Ah, je suis déçu.
Ouais, je pense qu'on peut trouver encore pas mal de choses. La page existe toujours. Ouais, ça a été annulé.
Il faut la trouver, mais ça existe toujours. Et puis, on avait parlé de Formule E aussi. Et à quelques jours de la fin du financement, c'était dangereux. On savait pas si ça allait marcher.
Et bah, lui, il a réussi à l'avoir.
Donc, à voir si il y a eu du bourrage d'urne. S'il y a eu quelqu'un qui a mis la main à la poche pour.
Ouais, c'est quand même pas du bourrage d'urne, ou alors l'éditeur qui a finalement
estimé
qu'il fallait finir, je sais pas.
C'est ça. Bref, voilà.
Bah, tant mieux pour Formule.
Donc, Formule E est passée. Moi, j'ai vu quelques commentaires de gens qui disaient qu'ils allaient l'attendre en boutique. Alors, toujours pareil, les paliers, tu avais des meeples en bois, tu avais des nouvelles. Nouvelle carte. T'avais même une très très jolie petite peluche d'éléphant. Si tu mettais 100 euros ou plus.
D'accord. Tu as la plus jolie la peluche. Moi je dirais une peluche.
Ouais.
Mais
non, c'est un éléphant rose avec.
Avec une sorte de signe indien machin. Ouais.
Voilà. Donc c'est passé et tant mieux pour Bruno Fedutti. Et puis. On ne peut pas parler de crowdfunding sans parler de My Witty Game. Tu es au courant de ce qui s'est passé ?
Absolument pas.
Tu n'es pas au courant.
Non, je vais
le faire.
Attends, du coup, je vais sur leur site. Mais vas-y. Ouais, ouais. Pendant qu'ils chargent, je bloque le Wi-Fi.
Je vais la faire.
Non. Non, vas-y.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, My Witty Game a fait encore un coup d'éclat. Ils sont experts en. En communication, voilà, c'est un peu ironique ce que je dis. Ils ont fait se déplacer un huissier jusque chez Monsieur Fall, chez Flatprod, Trek, en lui demandant les adresses IP de 6 des utilisateurs du forum de Trek, pour en le menaçant, en lui disant que ces 6 internautes avaient tenu des propos diffamants. Et que il souhaitait pouvoir porter une
c'est pas possible.
Certainement avoir une action en justice contre.
Mais donc c'est pas bon puisqu'il faut pour donner une adresse IP, il faut déjà qu'il y ait une action en justice.
Ah non, c'était pour constituer un dossier. C'était pour constituer un dossier. Et là c'est là que tu vois que
ils avaient du mal de Corben les gens.
Il y avait une maladresse. Non, je pense que ça serait non, mais de toute façon on n'a rien à dire à propos de Corben, ça je sais pas.
Je sais pas.
Et c'est là que tu vois que c'est un petit peu déplacé comme communication, un petit peu maladroit, parce qu'il y a eu une levée de bouclier, et à mon avis, qui était pas. Enfin, tout le monde dans la communauté ludique s'est rallié contre My Witty Game. Et je suis pas sûr que ce soit tout le monde qui soit ligué pour Trek, pour défendre Trek.
Non, mais effectivement, c'est pas un comportement qu'on fait.
Et en fait, ils ont dépassé les bornes. Et je me demande, en fin de compte, comment ça va se passer pour eux. Dans un proche avenir, je pense que ça va être très très compliqué pour Mawiti Game.
Ils viennent un petit peu de se couper d'une certaine base, c'est ce que tu veux dire.
C'est ça.
Mais sauf si il y a des gens qui seront pas au courant, parce que tout le monde ne relaie pas comme ça dans l'actu, dans des podcasts d'actualité ce genre d'information, n'est-ce pas ?
Voilà, c'était pour faire un petit retour sur le crowdfunding, puisqu'on vous en a parlé, on vous a donné une certaine approche. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant les semaines entre le moment où on a enregistré et puis maintenant. Donc c'était l'occasion de vous en dire deux mots. Donc voilà, on va mettre ce petit bout de sujet en tant que dossier. Et puis... On vous dit à bientôt pour le numéro 40. Et en attendant, jouez bien. Le 12 mars ou en mars 2012?
Ah, alors mars 2012, ce serait, comment dire, à moins qu'il y ait une machine spéciale, mais je pense que ce sera le 12 mars. Hein.
Ça va aller. Du bêtisier, c'est cool.
C'est très bien. Voilà.